Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David, on te retrouve tout à l'heure comme d'habitude. C'est le moment de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui donne la parole à ceux qui font vivre votre territoire, c'est-à-dire vous. Aujourd'hui, on reçoit Sylvie Poli et Guy Lepage de la JAD Tennis de Table. Bonjour, comment allez-vous ?
Très bien,
ça va bien, merci, oui. Bonjour à tous.
Bonjour.
Voilà, aujourd'hui, on va parler de tennis de table ou ping-pong. On peut employer les deux expressions.
Oui,
on verra s'il y en a une qui est moins péjorative que l'autre, plus noble, peut-être.
Oui, je pense que la Fédération française, maintenant, a bien compris que les deux termes pouvaient être utilisés sans côté péjoratif.
Voilà, très bien. On va d'abord écouter le Flash Info national et international, et ensuite, on se retrouve pour la première partie de cette émission. C'est parti. Et voilà, c'est parti. Alors, on a entendu parler de sport. Bon, le tennis de table, il n'y a pas encore de version d'hiver. Hein. On ne fait pas de tennis de table sur glace, ça n'existe pas.
Non, ça ne se fait pas encore, mais ça se fait en extérieur de plus en plus, malgré tout. On s'aperçoit que c'est un développement que la fédération a pris en note. Et ils octroient des tables en extérieur pour que les gens puissent pratiquer en loisir, bien sûr. Mais ça se fait de plus en plus.
Alors, on va commencer par une petite chose. Quand les invités viennent, on aime bien leur poser des petites questions sur leur personnel, un peu sur leur petite trajectoire personnelle qui se présente un petit peu, qu'on sache qui ils sont. Est-ce que vous voulez bien... Je sais que Guy est déjà venu ici. Guy, vous pouvez nous raconter un petit peu quelque chose sur vous ?
Oui, c'est ça. Oui, ça fait 2 ans. L'année dernière, je n'ai pas eu l'occasion de venir. Eh bien, je suis pratiquant depuis une vingtaine d'années. Je suis originaire du Maine-et-Loire et de la ville d'Angers. Et j'étais dans le club des Loups d'Angers. Et ça m'a permis de prendre la responsabilité de la section handisport à Angers, comme j'ai à nouveau pris cette responsabilité au sein de la JAD tennis de table. À Angers, on a été jusqu'à 22 licenciés handisport. On a été une des plus grosses sections en France. Et à la JAD, on a été 5 personnes en situation de handicap physique.
D'accord, oui.
Voilà. Et donc, on travaille des entraînements régulièrement. Toutes les semaines, on a cette possibilité de se retrouver et on fait des entraînements mixtes avec des personnes, des jeunes la plupart du temps, qui s'entraînent avec nous, quoi.
Bien sûr, on rentrera dans le détail de tout ça, bien entendu. Sylvie, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de vous, de votre trajectoire, si vous voulez bien ?
Moi, j'ai commencé le tennis de table à 15 ans. J'en ai 65 ans aujourd'hui. Donc, imaginez le nombre d'années de passion pour ce sport. Je crois que j'ai arrêté de jouer en compétition juste pour mettre au monde mes 2 enfants. Donc, je crois que le ping, oui, ça peut être vraiment une affaire de passion pour un sport qu'on peut pratiquer en compétition ou en loisir. Mais je crois effectivement que c'est un sport qui apporte énormément de plaisir.
Bon, c'est vrai que après le ping-pong a vraiment un statut particulier. Il est très très populaire parce que on en trouve partout dans les jardins des gens. On en trouve même des fois sur les aires de repos. Il y en a des tables. Bon, même dans les lycées, les établissements scolaires, des tables en béton, etc. Enfin, c'est vraiment on a l'impression que c'est vraiment le sport. Rapidement, on peut y accéder partout, tout le temps, facilement.
Et aujourd'hui, on a la chance d'entendre parler des frères Lebrun, les frères à lunettes, comme on les surnomme. Et c'est vrai que pour nos jeunes, c'est un formidable appel pour ce sport, parce qu'ils sont extrêmement populaires, ils ont des résultats incroyables. Il faut rappeler que Félix Lebrun a été quand même médaillé de bronze au dernier JO de Paris. Et son frère vient de remporter le top 16 européen. Donc c'est vrai que le ping, on en entend parler et on le voit au niveau des licenciés de notre club, la JAD de Dax Tennis de Table. On a effectivement un nombre de licenciés constant et chaque année, on a des nouveaux arrivants.
Alors, c'est vrai que bon, c'est le ping-pong, comment dire, je parlais du ping-pong de loisir, mais dès qu'on voit des vrais pongistes là, de haut niveau et tout, oula, on se dit oula. parce que là, il y a une vitesse, une dextérité, une virtuosité qui semble difficile à atteindre pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment.
Oui, c'est des entraînements pour ces professionnels hein, du tennis de table qui est quotidien, voire plusieurs fois par jour. Ils s'entraînent. J'ai eu l'occasion de côtoyer des professionnels des championnats de France de Pro A, où ils s'entraînaient 5 à 6 heures par jour, sans compter l'échauffement physique.
Bon, c'est un travail, quoi.
C'est leur vie, évidemment, c'est une activité professionnelle. Ils en vivent, ils sont rémunérés pour ça, quoi. Alors, effectivement, il y a des balles d'une rapidité, d'une puissance, d'une précision, avec une qualité d'effet que nous, petits pongistes, on a du mal à cerner tellement c'est puissant. Mais ils font partie des élites, des élites mondiaux, quoi.
Bon, après, c'est vrai que cette histoire d'effet, c'est toujours spectaculaire quand on joue contre quelqu'un qui est vraiment d'un niveau nettement supérieur à soi-même. Il y a plusieurs choses qui se passent, mais il y a notamment tout à coup la balle a rebondi dans le mauvais sens. Mais je peux pas l'attraper. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors quand on a les rondes, on se rend pas forcément compte qu'elle tourne. Et des fois, quand elle arrive, il se passe des choses. Elle peut repartir en arrière même.
Oui, c'est vrai. On peut avoir des effets rétro. Et là, c'est la qualité des plaques qui sont des plaques de caoutchouc utilisées sur ces raquettes qui permettent maintenant d'avoir des effets et une puissance, une vitesse. De balles qui est assez extraordinaire.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de raquettes, enfin moi je parle vraiment en amateur, de ce que j'achèterais dans un magasin de sport, il y a des raquettes qui ont deux côtés, un côté un peu lisse et un côté avec des picots. Alors c'est quoi la différence entre les deux?
La différence c'est que vous avez une raquette avec un picot qui est plutôt une raquette avec un côté défense. Donc le picot va amortir les effets.
D'accord.
Et va pouvoir la renvoyer plus ou moins mollement du côté de l'adversaire. Alors que une plaque classique, c'est une plaque en fonction de l'épaisseur, en fonction de la qualité du caoutchouc, va donner une vitesse, une rapidité et une possibilité d'effet plus ou moins important.
Quoi. Oui, c'est plutôt avec ça. Il faut que ça accroche.
Oui, c'est ça. Hein. On ne frappe pas tellement la balle. En fin de compte, on la frotte.
On la lift, on la brosse.
C'est vraiment frotter la balle. C'est vraiment la caresser pour ceux qui ont ce toucher nécessaire pour être à un bon niveau, pour pouvoir surprendre l'adversaire en fin de compte.
Alors, c'est la question que je me posais. Alors, c'est quoi un bon pongiste? C'est quoi les qualités d'un bon pongiste? Qu'est-ce qu'on attend d'un bon pongiste?
Alors, pour moi, un bon pongiste, c'est quelqu'un qui maîtrise la technique, qui maîtrise la tactique, et surtout, parce que je crois que ça c'est extrêmement important, qui a un mental qui lui permet, parce que je pense que on le voit au niveau du club, quand on a des entraînements dirigés, on progresse, la technique on finit par l'acquérir, plus ou moins, ça dépend des niveaux de chacun, mais je crois que souvent la différence se fait au niveau du mental. Donc c'est très très important la maîtrise de soi et rester calme et surtout bien analyser le jeu de l'adversaire. Évidemment une bonne condition physique parce que contrairement à ce qu'on peut penser, le tennis de table à un certain niveau c'est extrêmement physique.
Quand on voit les gars qui jouent, ils font des sauts de côté très très rapides et d'une grande ampleur. D'ailleurs c'est la question que je me posais, c'est au niveau physique. Alors là où on se fait mal, c'est quoi? Est-ce que c'est justement les articulations, les ligaments, tout ça, les genoux, c'est quoi qui souffre en priorité?
Alors pour celui qui est plus ou moins bien entraîné, c'est vrai que l'épaule peut être un point faible, dans la mesure où on a un geste qui est plus ou moins adapté. Mais les premiers conseils que l'on donne à nos jeunes ou à ceux qui s'entraînent, c'est de faire un échauffement physique.
C'est absolument indispensable.
Parce qu'on sollicite notre corps, nos articulations, que ce soit au niveau des membres postérieurs ou supérieure, oui, oui. D'une manière quand même assez intense. Quoi. Mm. Hein, donc l'échauffement oui. est primordial.
Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. C'est une chose, d'ailleurs, je crois qu'il faut rappeler aux auditeurs, je fais une digression, mais par rapport au ski, il y a plein de gens qui, c'est la saison en ce moment, hein, mm-hmm. qui vont faire du ski. Voilà, mais c'est bien de s'échauffer avant, parce que les articulations, les genoux, etc., elles prennent cher, en fait. Ouais, hein. Ouais, ouais, donc ouais, c'est ouais. bien, je crois que c'est bien, avoir une séance même de ski, de faire un petit échauffement sur ouais. certaines parties du
oui,
corps.
Oui, complètement.
Hein.
Oui, oui, complètement.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est un jeu aussi où il y a beaucoup de pivots. Mmh. Mais il faut quand même rappeler que c'est un sport que l'on peut pratiquer à tout âge.
Oui, bien, ah oui.
Ça, on a des personnes oui. chez nous au club, la plus âgée à voilà. 88 ans.
Voilà, c'est ça. Alors, on va en parler un petit peu de sa trajectoire, parce que c'est quand même assez exemplaire quand même. Effectivement, elle a beau avoir un certain âge, elle a un niveau certain, par contre.
Bah, tout à fait, elle aussi, c'est une passionnée de son sport. Ouais, et ouais. ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'elle a commencé ce sport qu'à 45 ans. Mmh. Et après, elle n'a jamais arrêté. Et bon, c'est vrai qu'elle s'entraîne. Elle suit les entraînements dirigés le mardi mmh. au sein du club de la JAD de Dax. Et puis bon, je crois qu'elle est tellement passionnée oui. et elle a toujours envie de progresser, oui. Alors, encore aujourd'hui.
On parle d'elle, mais on ne l'a pas nommée, faut le dire son nom.
Elle s'appelle Marie Vandel Castillo.
Voilà, si elle nous écoute, on la salue.
Et il faut savoir qu'elle est qualifiée pour les championnats de France vétérans mm. qui vont se dérouler à Caudry, mm. du 4 au 6 avril. Et elle a déjà été championne de France mm. en 2022, mm. où elle avait tout remporté. Oui. Elle a aussi disputé il y a 2 ans, en 2024, les championnats mondiaux à Rome, où elle avait aussi ramené une médaille de bronze. Donc mmh. oui, son parcours est tout à fait exceptionnel.
Très bien.
Et donc voilà, on lui souhaite le meilleur et oui, qu'elle nous ramène une belle médaille.
Évidemment. On va faire notre première pause, une petite pause musicale, et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. On va encore parler de votre club, hein, tout ce qui s'y passe. Il y a beaucoup de gens qui font du ping-pong, en fait. On ne s'en rend pas forcément compte et ça ramène du monde. C'est très bien. À tout de suite. Et nous voilà de retour avec nos invités. Alors, on va en parler de cette JAD tennis de table. Alors déjà, on va parler déjà un petit peu de l'écosystème dont vous faites partie. C'est cette fameuse Jeanne d'Arc. Il y a vraiment beaucoup de clubs. Hein. Vous avez dans les 170 et quelques licenciés, je crois.
Oui.
Mais
oui,
la JAD elle-même, ça représente beaucoup de monde.
Alors, beaucoup de monde, oui. On a toutes disciplines confondues, oui. environ 2000 licenciés.
Voilà, ce que je dis, c'est quand même pas mal. Un pourcentage par rapport à la population, ça fait quand même...
Oui,
c'est quelque chose d'assez conséquent, oui.
On a la chance d'avoir certainement des bons salariés, mmh. des bons entraîneurs, des bons animateurs mmh. Qui donnent tout leur temps, toute leur énergie pour créer une dynamique qui est appréciée par l'ensemble des licenciés.
Quoi. Oui, oui. Et puis l'union fait la force, comme on dit.
Oui.
Donc
oui,
le fait d'avoir une grande structure, c'est bien pour chaque club. Hein. Donc, mais là, aujourd'hui, on va parler spécifiquement du tennis de table. Donc, oui. vous êtes venu pour ça. Alors, comme je disais, il y a beaucoup de licenciés. Hein, mais il y a un petit, moi, on m'a donné un petit challenge, un petit résumé des choses quand même à dire sur l'historique. Il y a aussi des qualifiés au championnat de France. Il y a des médailles d'or, des médailles d'argent, médailles de bronze. Parce que on parlait tout à l'heure de loisirs, mais il y a aussi le sport et la compétition. Donc, quelle est la part de la compétition d'ailleurs dans les licenciés, les gens qui font de la compétition ou juste pour s'amuser entre guillemets?
Eh bien, c'est presque boîte. Mm-hmm. Il y a effectivement un accroissement des licenciés loisirs. Et c'est une très très bonne chose.
Oui.
Mais bien évidemment, les jeunes qui viennent ont envie de progresser. Mmh. Et donc, ils sont quand même, ce sont les plus assidus lors des entraînements dirigés,
oui.
qui sont assurés par des éducateurs sportifs professionnels.
Oui, voilà.
On a cette chance-là au club. Mmh. Et même d'ailleurs, pour les personnes qui jouent en loisir, hein, le mardi, elles ont aussi un entraînement dirigé. Mmh. Parce que je crois que quand on joue au ping, quel que soit son niveau, quel que soit son âge, on a toujours envie de progresser. Parce que plus on maîtrise notre sport,
oui.
et plus on prend du plaisir. Et je crois que ça, c'est le plus important.
Oui, bien sûr. Et puis on parlait aussi du loisir, mais c'est vrai que la compétition, c'est un petit peu, j'allais dire, un petit peu comme le poker. Dès qu'on met un petit peu d'argent, ça devient un peu plus, il y a un peu plus d'émulation, on a plus envie de gagner. Donc effectivement, je pense que ce besoin de faire de la compétition, hein, sans vouloir forcément écraser l'autre, hein, mais juste on est content de pouvoir monter en niveau et se jauger aux autres. C'est un plaisir.
Oui, et puis défendre les couleurs du club également.
Ouais,
c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui démarre en loisir et qui régulièrement se disent allez hop, on fait de la compète. Et alors il y a des compétitions spécifiques jeunes, des critériums individuels ou par équipe, et ce qui fait que ces jeunes sont pris un peu dans un engrenage, quoi, une spirale sportive.
Une spirale bénéfique.
Qui est très bénéfique. Et donc, on sent bien un engouement général chez tous ces jeunes. Quoi. Sachant que les effectifs sont à environ à moitié jeunes.
D'accord.
Pour la JAD. Hein.
D'autant plus, vous avez un partenariat avec le lycée Saint-Jacques de Compostelle. Donc, dans le sport scolaire, comment ça se passe, ce partenariat ?
Alors, c'est assez simple. Hein. C'est-à-dire que certains jeunes que nous avons repérés, qui font donc leur scolarité à Saint-Jacques de Compostelle, avec une entente qui s'est réalisée avec la direction, on a la possibilité de faire toutes les semaines des entraînements spécifiques tennis de table dans une salle et dédiés directement chez eux.
Alors pourquoi une question comme ça, mais pourquoi un rapport privilégié entre cet établissement ? C'est parce qu'il y a une proximité géographique ou alors c'est parce que vous avez des licenciés qui viennent
Les deux. Ouais. Les deux, il y a cette proximité et puis il y a un nombre de joueurs, de jeunes joueurs qui font leur scolarité là-bas et qui sont intéressés pour progresser encore un peu plus vite que d'autres, quoi. Donc, on va pas forcément en faire que des élites, hein, mais on va faire des joueurs qui vont se confirmer et qui vont progresser d'une manière beaucoup plus rapide.
D'accord. Alors, en termes de matériel, ils ont quoi sur place ? Ils ont une salle avec des vraies tables ping-pong
Alors, il y a des tables de ping. Hein, la salle n'est pas spécifique. Hein, c'est une salle omnisport. Donc, il faut monter et démonter les tables. Ouais. Mais bon, ça se fait facilement. Oui. Et pendant une heure, deux ou trois midis par semaine, ils ont la possibilité de s'entraîner en plus des horaires habituels de l'entraînement du club.
D'accord.
On a la chance à la section tennis de table de la JAD d'avoir effectivement une grande, grande salle qui peut accueillir jusqu'à 24 tables, qui nous permet du coup d'organiser aussi des manifestations à échelle départementale, régionale. Et ça, je crois que c'est un atout très, très, très important pour notre club.
Oui, c'est sûr que là, pour le sport, c'est important, les locaux, l'endroit où on fait le sport, forcément évident, suivant les sports, d'avoir ce qu'il faut, en surface, en matériel, etc.
Et ce qui nous permet d'accueillir effectivement beaucoup, beaucoup de monde et proposer chaque semaine trois créneaux horaires, le mardi, le mercredi, le vendredi, donc pour tous les âges. Je voudrais mettre l'accent aussi sur le fait que nous avons une section féminine, c'est-à-dire un créneau horaire qui sont dédiés aux jeunes filles qui veulent poursuivre, jouer au tennis de table. Et je crois que on est le seul dans le département à proposer cela parce qu'on a du mal. On a quand même un peu de mal à faire venir les filles dans ce sport, ce qui est un peu dommage.
Oui, c'est vrai, parce que
c'est un sport tout à fait compatible pour les filles. C'est un rare sport d'ailleurs où on peut jouer en parfaite mixité, puisque, vous voyez, dans mon cas personnel, je peux jouer contre des filles en individuel, mais par équipe, je joue aussi contre des garçons. Oui. Et il faut savoir qu'à classement égal, jusqu'au niveau régional, mais c'est exactement la même chose.
D'accord. Ah oui, voilà.
Donc je pense que je trouve que c'est une chance aussi de pouvoir pratiquer un sport où les garçons et les filles sont ensemble. Et ça se passe très bien.
Oui, c'est vrai. Bon, donc vous avez du mal à en trouver quand même des filles, parce que j'ai vu un peu les statistiques sur votre documentation, le pourcentage de personnes sexe féminin dans le club est relativement bas par rapport aux hommes.
Alors c'est général, je pense que la FFTT essaie aussi de promouvoir le tennis de table féminin, et c'est vrai que moi-même, au sein du comité départemental, je suis responsable de la commission féminine, et je m'interroge énormément. Moi qui ai commencé le ping à 14 ans, on avait beaucoup plus de filles quand moi je jouais, quand j'étais beaucoup plus jeune, donc effectivement, je m'interroge aussi. Donc je pense qu'il faut faire les efforts que nous menons. Mmh. Il faut savoir qu'à la GAD de Dax, par exemple, on a organisé, en lien avec le comité départemental, une journée féminine qui a regroupé 31 féminines de l'ensemble du département. Bon, ça a été vraiment un très, très gros succès. Donc, je pense qu'il faut aussi proposer des journées féminines avec des éducateurs, mais dans la convivialité et à la fois pour celles qui veulent faire que du loisir ou celles qui veulent faire de la compétition.
Oui. Bon, voilà, j'espère que les auditrices qui nous écoutent, qui se disent « Ah tiens, vous savez que… »
Les portes sont grandes ouvertes.
oui, bien sûr, bien sûr. On va faire une deuxième pause, on va écouter un petit peu de musique et le Flash Info local ce coup-ci. Et on se retrouve ensuite pour la partie suivante de l'émission. Et voilà, c'est parti, nous voilà de retour. Alors on va parler aussi d'un aspect non négligeable de cette section tennis de table, c'est la partie handisport, parce que déjà ça fait partie de son fonctionnement, voilà. Et ensuite il y a une actualité, il y a un Open national d'handisport dont on va parler aussi. Alors,
Donc cet Open se déroule dimanche prochain à la salle omnisport du stade André Darrigade. L'entrée est gratuite, c'est ouvert à tout le monde. Au niveau des horaires, la compétition va démarrer à 9h le matin et va se terminer aux alentours de 16h30-17h, où là, il y aura une remise de récompense. Nous avons invité évidemment les élus pour accompagner les gagnants, les vainqueurs de cette compétition. Nous allons recevoir une quinzaine de joueurs debout et une dizaine de joueurs en fauteuil, de joueurs assis, qui vont disputer leur match afin de gagner leur place pour être qualifiés pour les championnats de France.
D'accord, donc là c'est le 22, donc c'est dans pas longtemps du tout.
Oui, c'est dimanche prochain.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore des places? Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent s'inscrire? Vous en êtes où par rapport
à ça? Alors non, là les inscriptions, en fin de compte, les joueurs qui sont inscrits ont été sélectionnés par la commission fédérale de tennis de table. Donc se passe au niveau parisien. Les gens postulent, s'inscrivent et en fonction des résultats antérieurs sont sélectionnés ou pas pour cet Open. Donc effectivement, on a un c'est un peu clos comme participation. Cependant, s'il y a des joueurs qui sont intéressés, qui sont en e-sport, ils peuvent venir voir. Ça leur permet d'apprécier le niveau différentes compétitions. Et puis pourquoi pas par la suite s'inscrire et participer à d'autres compétitions qui se dérouleront dans le courant de l'année.
Oui, parce que là, ça s'appelle un Open national, donc ça veut dire que ça fait partie d'un trajet, d'une série de compétitions.
Oui, ce week-end-là, au niveau national, il y a 8 villes, dont Dax, qui sont sélectionnées pour organiser ce même type de compétition dans toute la France. Il y a 8 villes différentes. Donc Dax et dans le sud-ouest va recueillir des joueurs qui vont venir évidemment du grand sud de la France. Mais on a également, là j'ai pu constater en regardant la liste des sélectionnés, des gens qui viennent de l'Île-de-France et qui viennent également de Bretagne.
Ah oui, c'est vraiment le grand sud.
Breton de Plumeur. C'est un joueur que je connais parce qu'il est déjà un petit peu ancien. D'accord. Je crois qu'il a de la famille. Il a passé ses vacances. C'est un peu exceptionnel, mais en général, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine sont les régions où on va avoir le plus de joueurs de ces origines-là.
D'accord. Alors, il y a une fédération dédiée aux personnes handicapées pour ce sport?
Alors oui, bien sûr, il y a une fédération française handisport avec une commission spécifique pour la discipline, tennis de table, et qui est une commission quand même assez importante, puisque le tennis de table est pratiqué majoritairement par beaucoup de personnes en situation de handicap physique.
Ouais, d'accord. Hein.
Et encore plus en situation d'handicap mental.
D'accord.
On a environ d'inscrits pour les compétitions, j'ai relevé ça, on a environ 400 joueurs inscrits qui font de la compétition, que ce soit assis et debout, et en sport adapté, donc les personnes qui sont en situation de handicap mental, il y a plus de 2000 licencié, inscrit en compétition.
Oui, d'accord, c'est beaucoup,
oui, c'est important.
Hein. Ah, oui. Ouais. Pourquoi on dit c'est populaire comme sport? C'est vraiment populaire.
Oui, c'est populaire, oui, ah, oui, ça se pratique à tous les niveaux, tous les âges, et quel que soit l'handicap.
Quoi, alors justement, vous parliez apparemment, il y a deux catégories, il y, y a ceux qui sont en fauteuil et ceux qui sont debout.
Oui, alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire que les entraînements, et surtout les compétitions, on va parler de la compétition, se déroulent avec deux tableaux différents. Un tableau de joueurs assis, qui jouent donc en fauteuil, et un tableau de joueurs debout, bon, qui peuvent avoir des problèmes, soit avec, avec leurs membres supérieurs ou leurs membres inférieurs.
Oui, voilà, oui. Voilà.
Mais c'est, les catégories de handicap pour les Open ne rentrent pas en ligne de compte.
Oui, voilà, c'est ça. Donc on peut avoir deux personnes, quel que soit leur handicap, on considère qu'elles sont de niveau égal, voilà, en tout cas pour participer.
Par exemple,
à ce niveau-là.
Des joueurs en fauteuil peuvent avoir des abdominaux. Et peuvent jouer contre des personnes qui, eux, n'ont pas d'abdominaux du tout. Quoi.
Ah oui, d'accord.
Donc, effectivement, mais les performances sont quand même enregistrées en tenant compte des classes de handicap.
Oui.
Et ces joueurs, même s'ils ne sont pas dans les premiers, peuvent, en fonction de leurs résultats, acquérir une place pour les championnats de France, par exemple, et faire partie de l'équipe de France.
Alors comment ça se passe pour une personne en fauteuil ping-pong? Parce que bon, on a forcément en tête cette grande mobilité des membres inférieurs, voilà, les sauts, les écarts, etc.
Oui.
Du coup, est-ce qu'ils sont plutôt assez statiques sur leurs roues et ils bougent beaucoup les bras? Comment ça se fait?
Alors évidemment, la mobilité des bras est fondamentale, parce que faut bien compenser le manque de déplacement. Mais en fonction des joueurs, ça m'est arrivé de constater lors des entraînements ou lors des compétitions auxquelles j'ai pu participer, d'avoir des joueurs qui ont soit les deux roues avec des freins fixes, soit une roue, ou soit aucune roue fixe.
Avec une roue, ça permet de tourner, de pivoter.
Ça permet de tourner et de se déplacer légèrement, et parfois 10 cm de gagné, c'est suffisant pour récupérer la balle. Quoi,
hein.
Alors, c'est en fonction de la possibilité déjà que peut avoir la personne, et puis de sa manière de jouer. Quoi.
D'accord. Ouais. Alors au niveau du matériel, est-ce qu'il y a une adaptation particulière? Les tables sont déjà à la bonne hauteur, je crois, pour les fauteuils,
les tables sont exactement les mêmes.
Voilà, c'est
ce qui rend la pratique mixte, valide et handicapée très facile.
Ouais.
La hauteur des filets est la même, les règles sont quasiment les mêmes. Il y a très peu de différences, sinon au niveau des services. On n'a pas le droit de faire des services qui sortent sur les côtés de la table, pour les joueurs assis. Hein.
Oui,
pour les joueurs debout,
c'est
exactement les mêmes règles. Et la FFTT a intégré dans son règlement ses spécificités pour les joueurs en fauteuil. Mais il y a très très peu d'écart. Quoi,
Alors, on a parlé tout à l'heure des fameux frères Lebrun. Hein.
Oui.
Donc ça, c'est le... Voilà, je crois qu'il y a eu le avant et le après. Je pense qu'il y a eu... Enfin, peut-être que le terme raz-de-marée est un peu exagéré, mais il y a dû avoir une vague de gens intéressés qui sont arrivés suite à cette médiatisation de leur réussite.
Ouais. Oui, oui, leur réussite a suscité environ, sur le plan national, plus de 20% d'inscrits supplémentaires. Quoi.
Eh oui.
Donc, ce n'est pas un raz-de-marée, mais ça n'en est pas loin quand même.
Ça n'est pas loin, c'est une grosse vague en tout cas.
Oui. Alors, la difficulté, c'était pour les clubs qui étaient habitués à ronronner.
Les absorber.
Eh ben voilà, il va falloir s'équiper, avoir du personnel évidemment qualifié et du matériel en supplément pour pouvoir assurer l'accueil, l'intégration et le bon fonctionnement de ces effectifs complémentaires.
Ah oui, c'est sûr. Alors, cet Open, donc, il y a aussi une buvette, on peut se restaurer, etc.
Oui, bien sûr, traditionnellement, dans les compétitions handisport, le club organisateur prépare un repas chaud.
Oui.
Les gens préfèrent avoir, à la pause de midi, donc quelque chose de chaud, de consistant, qui leur permet quand même, parce que certains, malgré tout, n'ont pas une mobilité très importante. Le rythme des matchs s'enchaîne pas toujours rapidement. Donc, on a chaud, on a froid, on attend, etc. Donc, le fait d'avoir un repas chaud permet de les restaurer. Et on a la chance d'avoir, au niveau des bénévoles, des cuistots de métier, et qui préparent, qui mitonnent des repas qui font que le club est apprécié par
ça c'est fondamental, c'est fondamental. Ça c'est sûr que...
Et nous avons le foyer, nous avons le foyer donc avec toutes les infrastructures pour pouvoir accueillir ces personnes-là. Ça c'est important aussi.
Oui, bien sûr. Oui, c'est l'occasion, mais on a parlé de les cuistots, etc. Bon, mais comme toutes les clubs sportifs et toutes les associations, vous avez besoin de mains, de compétences, de bénévoles et d'aide.
C'est essentiel pour faire vivre un club, de pouvoir s'appuyer sur tout le monde. À la fois, évidemment, le bureau, donc le président et tous les encadrants, mais bien sûr les parents et puis les licenciés. C'est ça qui fait que le club va pouvoir proposer des animations, pouvoir, justement, lorsqu'il y a des grosses manifestations, assurer les buvettes, assurer aussi la promotion de l'événement. C'est essentiel. Alors on a la chance, d'avoir un club très structuré, avec des gens qui s'engagent et qui font beaucoup, ne serait-ce que pour cette manifestation donc ce dimanche. C'est évident que ne serait-ce que la préparation des repas, mais aussi on a besoin d'arbitres, on a besoin de ramasseurs de balles, donc évidemment ça, on a sollicité tout le club, pour pouvoir nous aider pour que tout se passe pour le mieux possible.
Il y a des gamins qui sont inscrits là pour faire ramasseurs de balles.
Bien sûr.
Je pense aux gamins parce que traditionnellement quand on voit le tennis à la télé, c'est souvent des jeunes qui font ça.
Bien sûr, et c'est des moments de partage, c'est des moments exceptionnels, parce qu'on partage ce même plaisir, cette même passion pour ce sport. Et je peux vous assurer que les personnes qui viennent, comme le disait Guy, de si loin pour cette journée-là, pour jouer au tennis de table, forcément, on est très, très respectueux et émerveillés d'ailleurs par la qualité de leur jeu et ce qu'ils font. C'est formidable.
Sans compter que l'aspect éducatif de ces jeunes qui voient des personnes qui sont en situation parfois délicate quand même dans une vie sociale arrivent à jouer aussi bien qu'eux, sinon mieux qu'eux. Et que ce regard sur le handicap s'efface progressivement et les gens les considèrent comme des pongistes à part entière.
C'est sûr que un joueur de ping-pong handicapé qui se jouerait contre moi, je serais rapidement très ridicule, c'est certain. Tout est très relatif dans cette histoire. On va déjà attaquer la dernière partie de cette émission. On va faire une dernière pause et on se retrouve après un petit peu de musique. À tout de suite.
D'accord.
Et on retrouve Sylvie et Guy pour la dernière partie de cette émission. Alors, Guy va nous parler de partenariats privilégiés que vous avez, qui sont importants.
Oui, c'est ça. Pour organiser un Open... il est nécessaire de demander à des structures partenaires de nous aider de manière à nous faciliter la tâche pour l'organisation. Je tiens à remercier donc le comité départemental de tennis de table qui est partie prenante avec nous et qui nous épaule depuis déjà de nombreuses années et qui nous encourage. Et vraiment, c'est une joie de pouvoir être dans une fédération valide et qui permet une intégration, une inclusion des personnes en situation de handicap. Il y a également une structure qui est unique en France, le SSID, le service sport, intégration et développement, qui est donc un service départemental qui s'occupe d'une manière permanente, quotidienne, du sport pour les personnes en situation de handicap.
C'est
également
un service du département.
C'est un service départemental. Il y a une dizaine de personnes qui sont en général des sportifs ou des anciens sportifs, donc qui connaissent bien le milieu et qui proposent des animations multiples. Et Andy Land, vous avez entendu parler, certainement, eh bien, c'est le SSID qui est la cheville ouvrière de ces journées-là. Et puis, bien sûr, le comité départemental handisport, avec qui on a des relations... hebdomadaire pour donc organiser ces différentes manifestations.
Très bien.
Donc c'est une chance effectivement d'avoir plein de personnes, plein d'autres structures, d'autres associations qui nous épaulent et qui nous permettent d'avoir un peu d'ambition dans nos organisations.
Oui. Et puis alors, Sylvie, vous nous parlez aussi du cinéma. Vous êtes étonnée parce qu'on a parlé des frères Lebrun qui ont fait leur petit raz-de-marée, mais il y en a peut-être il y a une autre vague qui arrive.
Ben oui, parce que tout est bon pour parler du tennis de table, oui. Et puis pour montrer ce que c'est que le sport aussi de haut niveau. Alors ce film, c'est Marty Suprême avec Chalamet.
Oui, Timothée.
Timothée Chalamet. Mm-hmm. Et c'est l'histoire, oui, d'un pongiste. Alors il est complètement fou de ce sport parce que son rêve, c'est d'être le plus grand sportif de tennis de table au niveau international. Donc je pense que oui, c'est un film où on voit beaucoup de tennis de table. Alors je l'ai pas encore vu parce qu'il sort cette semaine.
Et voilà.
Mais évidemment, j'invite tout le monde à découvrir le Ping par le biais de ce film, en sachant qu'il a été cité 6 fois pour les Oscars. Donc je pense que ça doit être aussi un bon film.
Ah oui, effectivement. Ouais. Bon, mais je vous demande même pas si vous serez à l'avant-première ou à la
Je vais aller le voir, bien sûr que je vais aller le voir.
Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et puis voilà, pour la petite anecdote, moi j'avais vu un reportage sur Internet où il racontait que c'est pas une doublure, etc. C'est qu'il a dû vraiment, vraiment bosser le ping-pong pour être capable d'être comédien dans ce film. Il fait pas juste semblant avec de l'intelligence artificielle ou je sais pas quoi. Il a dû s'y mettre sérieusement.
Bien sûr, oui, non, et moi il me tarde de le voir. Et j'invite effectivement tout le monde à aller voir ce film.
Très bien, et bien moi j'invite tout le monde à venir le 22 février au stade André Darrigade, salle Omnisport de Dax.
Merci, voilà. Oui. Merci donc, de nous avoir reçu.
Non, c'est normal, c'est sympa. Mm-hmm. Puis comme je disais tout hors antenne avec mes invités, le ping-pong est un truc spécial, en fait, il est sympa. Il a une aura positive qui l'entoure, un peu privilégiée, très populaire, et très sympathique, donc ça attire beaucoup de gens. Voilà.
Tout à fait. Et je peux vous assurer qu'au club de la JAD de Dax, tennis de table, on sait accueillir et on sait partager cette passion et ce plaisir du ping.
Très bien. Eh bien, je vous souhaite plein de monde le 22 février. Donc,
merci. Voilà. Oui, on espère. Oui.
Bon, merci d'être venu. Au revoir.
Merci
au revoir.
Beaucoup.
Merci. Au revoir.
Au revoir.